Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 18h dans ce studio, à vous qui nous suivez en ce moment à Bourem. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Des cas d'inondation ont été signalés dans de nombreuses localités de Koutiala, Fana et Bourem. Ils ont causé d'importants dégâts matériels dont des effondrements de maisons. Les populations se disent préoccupées par la situation. Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, est à Bamako depuis ce dimanche. Il est venu s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale à Accra. La section syndicale des surveillants de prison dénonce ses conditions de travail. Elle réclame l'unification de la grille salariale et d'autres meilleures conditions de travail. À la présentation de ce journal, Adama Amadou Haïdara, Gagné Kanté assure la mise en ordre. Plusieurs localités du pays ont enregistré de fortes pluies la semaine dernière, provoquant des inondations à Koutiala et Fana au sud et Bourem au nord. Ces inondations ont causé des effondrements de maisons. D'autres dégâts matériels ont été signalés dans ces localités selon les populations. Celles-ci s'inquiètent d'ailleurs de ces pluies diluviennes qui deviennent fréquentes selon elles. Les détails ici avec Khalifa Guita.
198 ménages sur 312 sont gravement touchés par les inondations dans la commune de Bourem à ce jour. Ces ménages ont subi des effondrements de maisons, des pertes d'animaux et des biens matériels emportés par les eaux de pluie. L'accès entre Bourem et Gao sur la route nationale 18 est aussi difficile à cause de la rupture d'un pont par les eaux de pluie, mais pas de pertes en vie humaine, rapportent des sources municipales. Si certaines familles sinistrées sont hébergées par des voisins, d'autres sont aussi sous des tentes données par des humanitaires. Ces personnes sous le choc psychologique ont été secourues en urgence par la mairie et des personnes de bonne volonté. Mais elles ont toujours besoin d'aide alimentaire et d'autres natures, affirment les mêmes sources. À Fana, dans la région de Djouila, la mairie a recensé plus de 100 sinistrés des inondations de samedi dernier. Même si le nombre exact des maisons tombées n'est pas encore connu à ce stade, des sans-abri sont logés chez des personnes de bonne volonté et au groupe scolaire, nous confie une source à la mairie. La mairie de Fana demande de l'aide à l'État et à ses partenaires. Ce même samedi, la ville de Koutiala a reçu 98 mm de pluie. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Nos tentatives pour avoir le bilan définitif des dégâts avec le gouverneur sont restées vaines.
Le directeur national de l'hydraulique, Djourou Boukoum, alerte sur la montée des eaux dans le bassin de Bani à Soufara, dans la région de Mopti. Il invite ses populations riveraines de Bani et ses affluents à prendre des mesures pour éviter tout désagrément. Il l'a dit hier soir sur le plateau du journal télévisé de l'ORTM.
Cette crue est préoccupante, elle est liée à fortes pluies en respect dans les bassins. On n'est pas loin du pic. En 1967, à la date du 4 septembre, on était à 5,66 m. Et à la date du 4 septembre, on est à 6,38 m à la station de Soufara. On est en septembre, tout laisse à croire que les pluies vont continuer. Il est évident que le niveau va atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis 1967 dans les bassins du Bani. Et nous avons déjà des équipes qui sont sur place. Aujourd'hui, quand vous partez à Soufara, il y a certains bâtiments qui sont déjà sous les eaux. C'est d'appeler vraiment à la prudence des populations, surtout dans les bassins du Bani. Nous sommes en train d'effectuer le travail pour qu'on évite l'inondation, notamment à Bamako.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La libération des trois soldats ivoiriennes a été diversement appréciée par l'opinion publique malienne. L'émission de l'exécutif dans le judiciaire et la fragilisation de la justice malienne sont les avis les plus partagés sur les réseaux sociaux. Mais pour des juristes, ces libérations sont légales et suivent la voie normale de la procédure judiciaire. Ibrahim Ben Mamata Touré est juriste et il est joint ici par Intal Akbilal.
C'est le procureur qui les a libérés pour des raisons humanitaires en fonction des demandes de mise en liberté. C'est tout à fait dans l'ordre naturel du fonctionnement de la justice.
Cette libération, selon le communiqué du procureur, fait suite à la demande du parquet. Est-ce qu'on peut parler des raisons d'État dans ces cas?
Bon, la raison d'État est une notion qui cohabite naturellement avec la justice. Quand on avance la raison d'État, la justice se plie forcément. Ça, c'est dans toute la démocratie du monde. Donc, la raison d'État prévaut sur la justice.
Est-ce que cela ne fragilise pas la justice malienne en pleine refondation?
Pas tout à fait, mais c'est dans l'ordre des fonctionnements de tout État dans une démocratie. Que ce soit au Mali, en France ou même aux États-Unis, la raison d'État peut être invoquée pour faire reculer la justice.
Le médiateur de la CEDEAO, comme annoncé dans les titres, est arrivé hier soir à Bamako. Cette énième visite de Goodluck Jonathan entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de l'organisation sous-régionale à Accra. L'ancien président du Nigeria a été accueilli par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Aguilaine Abdoulaye Touré.
L'annonce de la visite du médiateur de la CEDEAO a été faite dans un tweet du ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, Alhamdou Aguilaine. Au cours de cette visite, le médiateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Goodluck Jonathan, évaluera la mise en œuvre des recommandations issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Le 3 juillet dernier, les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation avaient décidé de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier dernier. Par contre, les sanctions individuelles contre les autorités maliennes et la suspension du Mali des organes de la CEDEAO ont été maintenues jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. En janvier dernier, les autorités maliennes ont fixé la date de la tenue de l'élection présidentielle à février 2024. Un référendum constitutionnel aura aussi lieu en mars 2023, suivi par des élections territoriales en juin et des législatives en octobre et novembre 2023.
La section syndicale des surveillants des prisons réclame l'unification de la grille salariale. Elle l'a fait savoir ce week-end lors d'un point de presse. Elle dénonce aussi leurs conditions de travail. Lieutenant Daouda Konati est joint ici au téléphone par l'Alaïcha Waletinfa.
Effectivement, nous avons tenu un point de presse ce week-end. C'était relatif à un certain nombre de points, notamment la grille initiée qui avait été signée par le gouvernement de la transition pour permettre à tous les fonctionnaires d'avoir un traitement de salaire de base égal en fonction des diplômes et des catégories. Donc après, nous sommes compris avec la fonction publique pour travailler sur un nouveau projet de grille. Au-delà de ça, il y avait aussi une lettre circulaire qui a été signée par notre ministre de tutelle, qui est le ministre de la Justice, relative à la formation du corps de surveillance des prisons. Il y a aussi d'autres points relatifs à la réforme et à la refondation même que le gouvernement de la transition a initié, notamment l'érection de notre direction nationale en direction générale, la création de l'école. Bon, jusque-là, il y a un certain nombre de ces textes-là que nous n'avons pas été consultés pour apporter nos observations.
Du sport dans ce journal tournoi IFOA U20 Nouakchott 2022, le Mali effectue sa troisième sortie ce soir face à la Mauritanie. Le vainqueur de cette rencontre se qualifie pour la CAN Junior Égypte 2023. Cependant, les 18 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN sont désormais connues. Parmi ces nations figure le Mali, vice-champion d'Afrique.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour dans les régions, informer et sensibiliser les élèves sur la santé sexuelle et reproductive, c'est l'objectif d'une émission grand public tenue la semaine dernière à l'Institut de formation professionnelle Malik Sidibé de Koutiala. Les préoccupations concernant la consultation prénatale, les infections sexuellement transmissibles, la planification familiale et l'acte de naissance ont été abordées. Trois élèves ont reçu des fournitures scolaires suite à un jeu concours sur le sujet. La cérémonie a été organisée par les services du développement social, de la santé et de la promotion féminine de la localité. À Badjangara, un enfant de 15 ans a trouvé la mort suite à l'effondrement des murs samedi dernier. Des témoins expliquent que le drame est survenu parce que le mur avait été sérieusement touché par les fortes pluies de ces derniers jours. Ils ajoutent que plusieurs habitations dans la ville sont anciennes avec des risques. Et les risques d'effondrement que celles-ci courent sont très élevés, d'où la vigilance des familles. À À Tomora, dans le cercle de Bafoulabé, trois enfants âgés entre 8 à 10 ans ont été mordus par un chien enragé la semaine dernière. Selon des sources locales, ce chien erre entre la brousse et le village depuis quelques semaines. Il est recherché par des chasseurs mais reste introuvable. L'inquiétude règne chez les parents car ils estiment que la maladie est incurable après contamination et que le vaccin contre la rage est coûteux. Les enfants mordus ont été admis au centre de santé de référence de la localité. Et retrouvons à présent Mariam Meïga pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème de l'émission de ce soir ?
Éducation, qu'est-ce qui explique la baisse de niveau des apprenants ? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir, Adama Amadou Haïdara. Pour en parler, nous avons trois invités. Yacouba Dambélé, secrétaire général de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali. Professeur Morike Dambélé, pédagogue. Ousmane Almoudou, de la synergie des enseignants signateurs du 15 octobre.
Merci Mariam et très bon débat. C'est ce qui referme ce journal. Merci à tous ceux de l'avoir suivi. L'esclavage par ascendance dans la région de Kai est le titre d'un rapport écrit par le sociologue Fodié Tandigoura. Après 2 mois d'enquête sur le phénomène dans plusieurs communes de la région, le document a été publié ce vendredi 2 septembre 2022 à Bamako. Dans cette étude socio-anthropologique, le sociologue pointe du doigt les conséquences de la pratique. Selon lui, l'esclavage laisse un avenir sombre aux jeunes de la région. Il propose en revanche des solutions à la fois aux populations, mais aussi aux autorités. Dr Fodié Tandigoura répond ici aux questions de Lali Tangara.
Ce document est surtout une inquiétude par rapport à une situation qui est l'esclavage par ascendance. J'ai remarqué que tous les problèmes majeurs de ces pays commencent par un incident, deux incidents, ainsi de suite. Je me suis dit qu'il est extrêmement important que l'on fasse un regard sur le cas de l'esclavage pour que Kai ne s'embrase pas comme le Nord l'a été au vu et au su de tout le monde.
Pouvez-vous nous parler un peu du contenu de cet ouvrage-là ?
Alors, d'abord, nous traitons des manifestations de l'esclavage. Comment ça se manifeste et quelle est la place des religions, notamment de l'islam, parce que certains utilisent l'islam comme étant la cause. Au contraire, l'islam pousse les individus à émanciper leurs esclaves. Le deuxième constat, c'est au niveau des traditions. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que pour les traditionnistes, ceux qui sont considérés comme esclaves, qui vivent sous ce statut, ne peuvent jamais s'émanciper. Sinon, s'ils s'émancipent, on leur retire leurs terres parce que les terres leur ont été données parce qu'ils sont esclaves. Maintenant qu'ils disent qu'ils ne sont plus esclaves, nous leur retirons tous les avantages matériels et moraux dont ils jouissaient dans notre société. Donc, les traditions sont rigides ici et les gens ne veulent pas du tout changer. Ceux qui ont essayé de défier la tradition ont été chassés, certains ont été mis sous embargo, on leur vend absolument rien. Quand vous êtes descendant d'esclaves, vous n'avez pas accès à la promotion sociale. Et la conséquence, on l'a exploré aussi, puisque la conséquence a été la séparation radicale des deux communautés au niveau du village. Ils ne prient plus dans la même mosquée, ils ne vont plus dans les mêmes cimetières. Donc ça a entraîné tout un tas de dislocations au sein des unités domestiques, si bien que les gens ne veulent plus se voir. Nous attirons l'attention des pouvoirs publics pour prendre des décisions afin que ça n'explose pas comme ça a été au nord du Mali.
Que selon vous, le code pénal qui sera promulgué dans les jours à venir va arrêter comme l'esclavage par ascendance au Mali?
Alors, les textes juridiques vont peut-être réduire, mais la pratique va continuer. Pourquoi ? Parce que déjà en 1905, c'était interdit. Ici, c'est une question de pratique et de code coutumier. Il ne suffit pas de prendre les textes et de s'arrêter à ce niveau-là.
Alors, que proposez-vous pour lutter contre l'esclavage par ascendance dans la région de Kai ?
Moi, j'aimerais que quand les décideurs politiques vont mettre en vigueur les textes, que ces textes soient accompagnés de sensibilisation en profondeur dans les villages, dans les localités où il y a la violence, pour dire désormais il y a un dispositif juridique que l'État dépêche des missions dans beaucoup de localités. L'État peut aller dans des villages où il n'y a pas de problème encore pour pousser les communautés à aller vers l'affranchissement symbolique à l'amiable avant que les tensions n'éclatent. Parce que nous n'intervenons que quand il y a problème. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Et aussi la mise en place d'une ligne verte pour dénoncer les cas d'esclavage par ascendance.